Voilà quelles sont les raisons de l'endettement croissant des États. Donc, il y a un ensemble de phénomènes qui vont tous dans le même sens. La récession qui crée ce qu'on appelle un effet boule de neige, c'est-à-dire moins vous avez de rentrée fiscale, plus l'écart entre ce que produit le pays et les recettes fiscales s'accroît. Il y a une baisse des impôts et la crise financière oblige les États à prendre le relais des banques privées qui ont peur de faire faillite. Et ce phénomène est général, donc on l'a constaté aux États-Unis, en Europe, bon, il y a le cas de la Grèce, il y a le cas de l'Espagne, il y a le cas de l'Irlande, il y a le cas du Portugal, il y a le cas de l'Italie, et peut-être de même qu'on va découvrir que le cas de la France ou d'autres pays va être soumis à la même recette libérale dont je vais parler maintenant pour terminer, c'est-à-dire faire payer la crise à ceux qui n'en sont pas responsables, c'est-à-dire les populations, les salariés, les retraités, etc. Donc la recette libérale ne peut, je vais essayer de vous montrer, que provoquer un engrenage de cette crise parce que l'austérité n'a jamais fait repartir les économies. Jamais. Il n'y a pas d'exemple historique où imposer l'austérité fait repartir l'économie. Il n'y en a pas. En revanche, chaque fois qu'on a imposé l'austérité, ça s'est toujours traduit par un accroissement des difficultés économiques et donc par une récession encore plus forte. Et bon, là, c'est pour faire un clin d'œil, vous savez, à Molière, et qui avait fustigé déjà à son époque les médecins qui, pour soigner le malade, faisaient des saignées tous les matins et qui finissaient par achever le malade. Alors, cette austérité, on en a déjà un avant-goût, et qui se mesure pas simplement par ce que vient de décider le gouvernement, mais par les dites réformes qu'il a mises en œuvre au cours des années précédentes, dont celle qui nous occupait il y a juste un an, c'est-à-dire la contre-réforme des retraites, qui fait partie de cet assemblage de mesures néolibérales pour faire payer la crise aux pauvres. Regardez en Grèce, regardez en Espagne, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne où Cameron veut porter l'âge de la retraite sur 68 ans, etc., etc. Ce qui occupe le devant de la scène ces jours derniers, ces semaines dernières, c'est ce qui se trame au sein de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, on le dit tous les matins, et la zone euro sont au bord d'une crise majeure, sans doute la plus forte depuis l'histoire de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les mesures qui ont été prises déjà en 2007, 2008, 2009 pour injecter de l'argent dans l'économie n'ont pas suffi à calmer la crise. Et les mesures d'austérité qui sont actuellement imposées en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande, etc., en France, vont aggraver la récession avec une ampleur sans doute colossale. Donc il y a un certain nombre de travaux savants qui ont essayé de chiffrer cela, vous voyez quelques exemples à l'écran, et voyant cela, depuis le début de l'année 2011, les gouvernements des pays membres de la zone euro se sont réunis, je ne sais plus combien de fois, réunion officielle, donc il y en a eu trois ou quatre très importantes, en mars dernier, il y a eu un Conseil européen qui a décidé de mettre en place ce qu'ils ont appelé le pacte pour l'euro plus, qui consistait à assembler quatre mesures extrêmement fortes. Première mesure, le renforcement du pacte de stabilité de croissance. Vous vous souvenez peut-être de ce que c'est que cette dette-là. Lorsque, en 1992, le traité de Maastricht fut adopté, il prévoyait la mise en place de la zone euro et de la Banque centrale européenne. Et pour que les pays puissent postuler pour entrer dans la zone euro, donc adopter la monnaie unique, il fallait qu'ils remplissent un certain nombre de conditions. C'était les fameux critères de Maastricht, dont les deux principaux étaient les suivants. Il ne fallait pas que le déficit public, donc le déficit de l'État et puis des organisations publiques comme les collectivités locales ou les hôpitaux publics, etc., il ne fallait pas que ce déficit global dépasse 3% du PIB, c'est-à-dire de la production réalisée en une année. Pourquoi 3% et pas 3,5 ou 2,5? Personne n'a jamais su le dire. Hein. Même ceux qui ont décidé 3% n'ont jamais pu l'expliquer. Simplement, il faut en comprendre la philosophie, ça consistait à entamer une démarche consistant à corseter les politiques publiques. 3, ça aurait été 3 ou 3,5 ou 2,5, le principe était inscrit dans le périmètre. Et la seconde condition, le second critère, portait non pas sur le déficit annuel, mais sur la dette déjà accumulée, donc la somme des déficits passés, soit ne devait pas dépasser 60% de la richesse annuelle, le PIB. Donc, pour entrer dans l'euro, il fallait satisfaire à ces deux conditions. Ça a marché. Je veux dire, ça a marché entre guillemets, les pays qui sont rentrés dans l'euro ont satisfait. Que se sont dit les gouvernements, donc une fois que l'euro a été créé? Ça a si bien marché pour imposer la rigueur, il faut pérenniser ces critères. Et donc, ils ont inventé, donc à ce moment-là, donc à la fin des années 90, ils ont inventé ce qui a été appelé le pacte de stabilité, puis ça a été un peu renommé pour satisfaire certaines aspirations de certains gouvernements, dont le gouvernement français, d'ailleurs, à l'époque de Jospin, qui a été renommé pacte de stabilité et de croissance, et qui disait quoi ? Maintien des critères de Maastricht, mais comme on ne pouvait plus les imposer tels quels, puisque les gens étaient les monnaies nationales avaient déjà disparu et donc les pays, en tout cas certains, étaient déjà rentrés dans la zone euro, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc ils avaient inventé l'idée, on va sanctionner financièrement les pays qui ne continueraient pas à respecter ces deux critères. Donc ça a été ça le pacte de stabilité. Donc la première décision de mars dernier, on renforce, on aggrave les sanctions pour non-respect du pacte de stabilité. Deuxième mesure, on impose d'inscrire dans les constitutions nationales la règle d'équilibre budgétaire à terme, dite règle d'or. Vous voyez, c'est parler d'or d'imposer une telle règle. Et en troisième mesure, complémentaire de la précédente, les pays seraient dorénavant obligés de soumettre leur budget annuel, leur budget de l'État annuel, à la Commission européenne avant même de les faire adopter par les parlements nationaux. Donc vous voyez la perte de démocratie de cette mesure-là. Donc l'Union européenne, ou plutôt les membres de la zone euro, s'arrogerait le droit de contrôler les budgets qui étaient jusqu'alors, en vertu des traités européens, qui étaient jusqu'alors du domaine exclusivement national. Et quatrième mesure, cerise sur le gâteau, on renforce la compétitivité des entreprises, mais par la baisse des salaires.
Pas des profits,
voilà. Donc, renforcement de la compétitivité via la baisse relative des salaires. Ces quatre mesures définissent ce qu'ils ont appelé, donc en mars dernier, le pacte pour l'euro plus. Bon, la crise n'a pas reculé d'un pouce pendant les 3 mois qui ont suivi. Le 21 juillet, ils se sont réunis à nouveau. Ce qu'ils ont décidé n'a même pas été mis en œuvre parce que la crise s'est aggravée en Grèce et ailleurs. Et au mois d'octobre dernier, ils se sont réunis de nouveau pour mettre en place donc des mesures plus décisives par rapport à la crise. Et vous savez que la discussion se poursuit encore puisqu'ils se retrouvent de nouveau la semaine prochaine, le 9 décembre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imaginé un truc qui ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Vous le savez, en plus des critères que je viens d'évoquer il y a un instant, les fameux critères de Maastricht, les traités européens, c'était déjà dans Maastricht, ça a été repris dans le traité de Lisbonne ensuite, et c'était déjà dans le traité constitutionnel européen que l'on avait refusé par référendum en 2005, ces traités interdisent aux États de faire appel à la Banque centrale. Alors, en France, c'était la Banque de France avant qu'elle passe sous le contrôle de la BCE, mais c'est maintenant avalisé par les traités européens. Donc, les États ne peuvent pas faire appel à la Banque centrale européenne pour financer leurs déficits lorsque les impôts qu'ils ont réduits ne suffisent pas pour payer les dépenses publiques. Et donc, on pourrait se demander pourquoi diable les États ont accepté cette règle qui les pénalise. Eh bien, il faut lire l'interview qu'a donnée, alors j'ai plus la date en tête, mais sur Internet, vous tapez Giscard d'Estaing et vous allez la retrouver. Giscard d'Estaing a donné récemment une interview. Les journalistes lui ont posé la question suivante, puisque c'est vous qui avez inauguré cette réforme de la Banque centrale, parce qu'avant même que les traités européens avalisent cette règle, c'était déjà le cas en France depuis 1973. Et donc on lui pose la question à Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances de Pompidou à l'époque, pourquoi vous avez changé cette règle en 1973? Et il répond, avec sa franchise qu'on lui connaît, il répond ceci, écoutez bien. c'était pour créer un marché privé des obligations publiques, des bons d'État. Donc, maintenant qu'on va conclure, j'ai fini mon topo quasiment, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à fait au début, première grande série de mesures, on libère le mouvement des capitaux. Mais il y a un hic, il manque dans ce puzzle financier, il manque un marché spécifique où ceux qui ont des capitaux, c'est-à-dire les banques et puis ceux qui sont derrière les banques, leurs actionnaires principaux, etc., les compagnies d'assurance, etc., il faut qu'elles puissent se procurer des lieux, des moments, des endroits où placer un argent qui rapporte quasiment assurément. Et le meilleur placement, le plus stable, hors période de crise majeure comme celle-ci, c'est le placement en bons du trésor, en bons publics. Et donc, pour créer ce marché, ils ont interdit aux États de faire financer leur déficit par la Banque centrale. Et c'est la règle sous laquelle nous vivons depuis maintenant 40 ans quasiment en France, 38 ans exactement, et depuis maintenant 12-13 ans dans la zone euro. Et donc, on a là l'exemple typique de décision que le commun des mortels pourrait trouver complètement étonnant, mais décision qui n'a pour but que de participer, de faire prospérer le marché privé, le marché financier de manière générale, et le marché des obligations d'État en particulier.